chanteront le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur.
Bonsoir. Ce soir est une nouvelle soirée comme à guerre sur Radio Galère, consacrée aujourd'hui aux routes de la soie, je vais m'en expliquer, et toujours avec la bénédiction et le support technique de Sidi, que je remercie.
Bonsoir.
Bonsoir Sidi. Voilà, alors les routes de la soie, alors, c'est le sujet du jour, et en même temps quand on parle de la Chine, vous le savez, mais il faut toujours le rappeler, on ne peut jamais s'en tenir à une histoire courte. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la Chine a cette particularité, je pense qu'elle est aujourd'hui le seul pays au monde à avoir une histoire qui a commencé de presque 2000 ans avant notre ère et qui ne s'est jamais interrompue. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, avec des hauts et des bas, des fractionnements, des divisions, des guerres intestines, mais un espace chinois autour des deux grands fleuves, donc le Huanghou, le fleuve bleu, et le Yangtze-Kiang, et le long de cette mer de Chine. Et il s'est toujours passé. Il y a toujours eu un pouvoir qui, quelquefois, s'est décentralisé, où il y a eu des divisions, mais il y a toujours eu un espace chinois, et qui d'ailleurs est très particulier, puisque au fond, quand on regarde sur une très très longue période, la Chine n'a pratiquement pas débordé de ces espèces de frontières naturelles que sont ces deux vallées et les monts qui les entourent. Et c'est plutôt l'inverse qui s'est passé, on le sait, il y a des témoins très très clairs qui sont la Grande Muraille de Chine, c'est plutôt des gens de l'extérieur qui sont venus s'installer en Chine, profiter de la richesse chinoise, profiter des terres à blé chinoises, profiter des terres à riz chinoises et de toutes les autres richesses, mais cet empire est resté en gros dans ses limites. Mais il a eu des hauts et des bas. Il a eu des hauts et des bas, et c'est pour parler des routes de la soie qu'on va essayer de la resituer, alors sans aller beaucoup très très loin dans l'histoire, mais essayer de resituer, disons au moins, ce qu'a été le 19e siècle pour la Chine et le 20e. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la dynastie des Ming, on est aux environs de l'année 1640, en gros, la dynastie des Ming affaiblie et renversée donc par un envahisseur qui est tout proche, mais qui est le Mandchou, et donc s'installe à Pékin la dynastie Mandchou. Et à partir de ce moment-là, la Chine a tendance un peu à se replier sur elle-même, alors que dans le même temps, je vous donne vous rappeler les dates, on est face à une extrême mobilité, à une extrême curiosité, à une extrême, je veux dire, dans certains cas, agressivité des puissances européennes. Alors les unes derrière les autres, le Portugal, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Angleterre, la France, etc. Puis in fine, même l'Allemagne et l'Italie qui tentent leur chance. Et donc effectivement, dans cette période-là, la Chine se replie sur elle-même et elle considère qu'elle est bien assez développée, bien assez évoluée. Ce qu'elle était, d'ailleurs, elle considère que ce qu'elle était jusqu'à la fin de la dynastie des Ming, c'est-à-dire très très en avance sur ce qui était l'état des sciences et des techniques en Europe en particulier, c'est-à-dire avec le papier, la poudre, toute une série d'inventions qu'on connaît, une capacité à faire des navires, je le cite parce qu'il s'agit de commerce, l'amiral Zheng He, qui entre 1610 et 1630 fait plusieurs expéditions depuis la Chine avec une série de navires, mais c'est une véritable escadre, il y a 100 navires, mais ces plus gros navires sont 10 fois plus longs que les caravelles de Christophe Colomb, avec des centaines de personnes à bord. On est tout à fait sur une autre échelle. Et puis la Chine va vivre un peu sur ses lauriers et elle va laisser venir le monde. Alors le monde, là, ce ne sera pas tranquille et elle réagit très très différemment. C'est une comparaison qu'il faut toujours avoir en tête. Différemment que le Japon. Le Japon voit lui aussi arriver ces Européens envahissants belliqueux assez facilement, très, très fortement armé, plein d'ambition. Et donc le Japon se rend compte que s'il veut sauver donc, la monarchie, le système impérial japonais, il faut à la fois qu'il se claquemure, disons, pour ne pas permettre l'accès, mais ne pas être colonisé, ce qui est arrivé à d'autres, et en même temps qu'il adopte un certain nombre de techniques et de savoirs scientifiques que les Européens ont développés. Et donc, ça sera. Alors, le Japon réagit, donc ça s'appelle l'ère du Meiji, et dit je reste japonais, je reste sur mon régime politique impérial, avec tout ce qu'il y a autour, ma culture japonaise, mais en même temps, je m'ouvre aux techniques et aux savoirs scientifiques occidentaux pour ne pas être en situation d'infériorité. C'est-à-dire, je sauve ma souveraineté politique en essayant d'acquérir une souveraineté technique, scientifique, technologique. C'est ce qui va d'ailleurs réussir. Et la Chine, elle bouge pas. Elle bouge pas jusqu'au jour où, effectivement, le Japon, en particulier, va commencer à lui infliger des sanctions. Mais c'est surtout la Grande-Bretagne. On est au milieu donc du XVIIIe siècle. C'est la Grande-Bretagne qui va commencer à s'installer et puis qui va carrément mener une guerre à partir de la position qu'elle a prise en Inde, donc la fine fleur de l'Empire britannique, lui mener une guerre pour essayer de commencer à coloniser la Chine. Il n'y en a pas, évident, ce vieux pays, plein de richesses, plein de trésors, ça serait une deuxième empire de l'Inde, ça serait effectivement quelque chose d'extraordinaire. La Grande-Bretagne dominerait le monde totalement. Alors, l'Empire chinois se laisse un peu faire, mais pas trop quand même. Il va mener des guerres, mais il y aura une véritable infériorité militaire. Les deux guerres qu'on appelle les guerres de l'opium, sur lesquelles je ne rentre pas. Et donc, petit à petit, la Grande-Bretagne prend pied sur le sol chinois. Alors, je dis prend pied parce qu'il ne s'agit pas du tout d'une colonisation comme ça a pu être fait de d'autres continents, c'est-à-dire un envahissement total. La Chine est trop grande, elle est trop peuplée. Il n'y a pas beaucoup de. Les soldats anglais, les administrateurs, les gouverneurs britanniques ne sont pas si nombreux. Donc, il faut s'ancrer, créer des bases, on dirait. Il faut s'ancrer sur le territoire chinois pour, à partir de là, organiser son commerce. Mais ça se fait donc sur la base de deux défaites militaires de la Chine qui l'humilient. Et la Chine va subir ensuite une autre humiliation, puisqu'à la fin donc, du 19e, elle est une guerre avec le Japon, et le Japon gagne. Le Japon, parce que précisément, comme je viens de le dire, le Japon a acquis toute une série de connaissances militaires, industrielles, qui lui permet d'avoir une armée supérieure à l'armée chinoise, et donc le Japon va gagner encore une guerre et va prendre quelques bouts de territoire qui font encore problème aujourd'hui. Et donc il y a double défaite vis-à-vis donc de l'impérialisme britannique, appelons-le comme ça, vis-à-vis du nouvel impérialisme japonais qui sévira assez longtemps jusqu'en 1945, on le sait. Et donc la Chine se retrouve en position inférieure. Et bien sûr, il n'y a pas que les Anglais et les Japonais. Beaucoup, tous les Européens, très ambitieux, veulent leur part, aussi leur base s'installer, prendre un petit morceau de cet immense empire chinois et s'approprier une partie de ses richesses, de ses trésors et de son histoire. Et donc ça va amener, je ne rentre pas non plus dans les détails là-dedans, la Chine à être ce que Lénine, entre autres, a caractérisé comme une semi-colonie, c'est-à-dire il reste toujours un empereur ou une impératrice, mais il y a toute une série de zones, en particulier dans les zones portuaires et dans les grandes villes portuaires, à Shanghai, à Tianjin, à Port Arthur, etc., où les puissances étrangères sont chez elles. Il y a des véritables comptoirs et où la puissance étrangère fait la loi. Elle a un pouvoir de police, elle a des soldats, elle a des administrateurs, elle est chez elle. Vous trouvez au cours aujourd'hui à Shanghai en particulier le territoire de la concession française. Vous retrouvez des maisons construites par des architectes français dans des rues bordées de platanes qui sont manifestement des produits d'importation de la République, enfin, ce qui n'était pas la République à l'époque, de la France à ce moment-là de son histoire. Et donc on a cette Chine qui a souffert, donc qui perd des guerres contre la Grande-Bretagne, qui laisse d'autres puissances coloniales s'installer, qui perd la guerre contre le Japon et qui se retrouve donc en très mauvais état. En très mauvais état et à un moment où effectivement la question se pose de se relever de cette mauvaise période, de ce siècle, ce mauvais siècle qu'elle a subi. Et ce qui va lui permettre un peu de se relever, c'est un peu à la façon de ce qui s'est passé du côté de la Russie, c'est-à-dire c'est la guerre Première guerre mondiale, qui est une guerre entre les impérialismes européens, qui va affaiblir ces impérialismes européens et qui va donner un peu d'air, disons, à ces pays semi-colonisés comme la Chine, qui peuvent reprendre espoir en disant l'étreinte va se desserrer. Ils ont beaucoup guerroyé, ils ont beaucoup fait couler de sang, ils ont eu de grosses pertes, de grosses destructions, donc on sent que leur pouvoir est affaibli. Et donc, dans la foulée, c'est ce qui va être à l'origine de la révolution bolchévique en URSS. Et donc, dans la foulée de cette révolution bolchévique, il se crée, donc, comme dans beaucoup de pays du monde, à partir entre 17 et 21 ou 22, un parti communiste chinois. Et donc, dont l'objectif est très clairement de prendre le pouvoir pour remplacer la monarchie, l'Empire est tombé en 1911. Et donc, et depuis, il n'y a pas un pouvoir stable. La Chine est divisée en plusieurs territoires entre plusieurs seigneurs de la guerre. Et donc, la création du Parti communiste chinois, donc en 1921, il y a 101 ans cette année, va redonner une perspective de pouvoir à un pays donc, qui a souffert de ce siècle où il a été maltraité par les puissances étrangères. Il a, après avoir été maltraité relativement par la dynastie Mandchou, il faut savoir que la dynastie Mandchou, ce n'était pas des Chinois, et ils ont beaucoup maltraité les Chinois. Quand on parle des traitements de l'obligation d'avoir la natte, des choses comme ça qui font partie de l'imagerie de certaines bandes dessinées, etc., tout ça, c'est des obligations imposées par les Mandchous. Les Mandchous ont maltraité la Chine, profitant de son affaiblissement relatif. Et donc la création de ce parti communiste chinois en 1921 ouvre la porte d'une époque qui, à la différence de ce qui s'est passé en URSS, où pratiquement la révolution d'octobre 17 amène les bolcheviks et le parti communiste soviétique directement au pouvoir, pas avec tous les pouvoirs, mais il prend le pouvoir et donc la monarchie est renversée, l'empire est renversé, pour la Chine, ça ne va pas du tout se passer comme ça. Ça ne va pas du tout se passer comme ça et le processus de prise de pouvoir va durer de 1921 à 1949. Ce processus de prise de pouvoir est très compliqué puisqu'en fait, parallèlement au Parti communiste chinois, donc qui se crée en 1911, il s'est créé sur la base de revendications de nouvelle indépendance, d'automisation par rapport aux puissances européennes, d'un peu de décolonisation. Il y a aussi un parti nationaliste qui sera dirigé par un maréchal Chiang Kai-shek. Et donc, il y a, pendant toute une période qui va durer jusqu'à 1949, il y a un affrontement, une concurrence plutôt, pour tenir le pouvoir dans la Chine nouvelle qui est en construction. Donc, vous voyez une grosse différence avec la révolution bolchévique, hein, puisque de 1921 à 1949, il s'écoule donc 28 ans, pendant lesquels la Chine est le théâtre d'une véritable guerre civile entre les communistes et le courant nationaliste, ce qu'on appelle le Kuomintang, qui ira jusqu'à des tentatives, et ça ratera d'un cheveu, j'allais dire, qui ira jusqu'à une tentative d'élimination des communistes par les nationalistes. Dans cette période, et ça c'est un phénomène sur lequel je vais m'arrêter, et pendant de cette période-là jusqu'à de nos jours, les rapports entre la Chine et le Parti communiste chinois, les rapports avec l'Union soviétique et le Parti communiste de l'Union soviétique, et ce qu'on appelait le Comintern, donc l'international communiste, sont des rapports particuliers. Particuliers en ce sens que, du point de vue des Chinois et en partie du point de vue des communistes chinois, les communistes chinois, qui auront mis donc 28 ans pour arriver au pouvoir, avec d'énormes pertes, en ayant risqué quasiment de disparaître, je ne vais pas m'éterniser sur cette partie-là de l'histoire, mais du point de vue des communistes chinois, le leadership dans le mouvement communiste mondial, c'est ça le Comintern, l'international communiste, ne va pas de soi. Parce que, d'une part, la Russie est une puissance, et même l'URSS est une puissance nouvelle par rapport à l'antériorité chinoise, et puis, il y a quand même une énorme différence culturelle, un passé complètement différent, et puis, donc, autant la révolution bolchévique a été assez facile, disons, hein, octobre 17, ça se passe assez facilement, même si après il y a la guerre civile suscitée par les puissances étrangères, l'arrivée au pouvoir des communistes chinois est une longue lutte. Et pendant toute cette période de lutte, les rapports avec l'URSS et le Comintern vont se compliquer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Comintern va faire l'analyse qu'il faut que le Parti communiste chinois travaille avec les nationalistes, en disant « l'analyse que nous faisons, c'est qu'il faut toutes les forces, qu'elles soient nationalistes ou communistes, se rassemblent, et nous allons donc faire un front uni de tous les Chinois qui veulent l'indépendance du pays. On verra après si les communistes vont... surmonter les nationalistes, enfin, détruire les nationalistes et prendre le pouvoir. Mais ça va au point qu'ils obligent le Parti communiste, tous les militants communistes, à adhérer au Kuomintang, au Parti nationaliste, ce qui fait que les nationalistes qui détestent les communistes ont la liste de tous les militants, et ça va très très mal se terminer, puisque pratiquement, une fois que les nationalistes ont la liste des militants communistes, ils peuvent les passer par les armes les uns après les autres. Je ne rentre pas dans ces détails de l'histoire, mais ça montre que les rapports entre l'URSS et son organe international, donc l'International Communiste, sont compliqués et que même il y a des moments où les Chinois voudraient bien avoir leur politique à eux. Ce qui va un peu modifier la situation, après ces moments très très douloureux et très très dangereux pour l'existence et même la survie du Parti communiste, c'est le fait que les Japonais envahissent d'abord la Mandchourie en 1931, et puis ensuite la totalité de la Chine sans arriver jusqu'à la totalité de l'occupation. Et donc à partir de ce moment-là, il se fait... un peu au forceps, un accord entre les nationalistes et les communistes pour mener la guerre contre l'envahisseur. Donc on a une espèce de guerre de libération nationale. Alors ce n'est pas la libération de tout le territoire, parce que le territoire est très vaste, mais ça sera un moment difficile. Donc la guerre, il faut savoir que la Chine est en guerre de 1937 à 1945. C'est-à-dire que c'est le pays qui a eu la plus longue Deuxième Guerre mondiale. Ça, on oublie de le dire aussi, avec alors, des souffrances considérables, puisqu'on considère, ce que les chiffres donnent, une quinzaine de millions de morts, ce qui est peu par rapport à la population de la Chine, et qui, en proportion, est moins terrible, moins épouvantable que la perte des Soviétiques face au Reich, mais la guerre est beaucoup plus longue et laisse des traces. Alors, pas partout, parce qu'effectivement, les Japonais n'arriveront jamais à conquérir la totalité du territoire chinois. Et nous arrivons donc en 1945, le Japon capitule dans les conditions qu'on sait, sur lesquelles je ne reviens pas, et il reste face à face le Kuomintang, donc les nationalistes et les communistes chinois, qui ont mené la guerre, non pas en fraternisant, mais chacun sur des fronts, enfin dans des lieux différents, mais qui ont mené la même guerre contre le même ennemi dans des endroits différents du pays, en coordonnant relativement leurs efforts. À ce moment-là, les États-Unis essayent d'aider les nationalistes, ils n'y arrivent pas, et finalement, dans les années donc 45-49, c'est le Parti communiste chinois qui règle son compte à un parti nationaliste qui n'est pas très intelligent dans ses politiques, très corrompu, et donc les communistes chinois vont réussir à imposer leur pouvoir et à s'installer au pouvoir le 1er octobre 49 à Pékin, on le sait. À partir de ce moment-là, donc de 45 à 49, il faut retenir cette période aussi, l'URSS laisse faire parce que les États-Unis essayent d'intervenir directement en soutenant les nationalistes. L'URSS qui a énormément souffert, souvenons-nous des 25 millions de morts, qui a la menace de l'arme atomique qui a été brandie par les États-Unis après Hiroshima, l'URSS... j'allais dire, panse ses plaies, reprend son souffle, parce qu'elle a subi un choc énorme de déplacement de population, de destruction d'usines, de villages, d'installations de toutes sortes, etc. L'URSS, j'allais dire, c'est pas du tout pour blesser les Soviétiques, est fatiguée. Et donc, en fait, ils vont laisser les Chinois. Enfin, ils n'aident pas. Si, politiquement, ils sont associés aux Chinois, mais ils vont pas les aider dans les derniers mois de la lutte. Ils vont, par contre, les aider... en protestant à l'ONU contre le fait que, dans la création de l'ONU, il est prévu que c'est le Kuomintang qui représente la Chine, puisque le Kuomintang était officiellement au pouvoir, ce qui n'était pas le cas des communistes au moment de la guerre. C'est le Kuomintang qui siège à l'ONU donc pour représenter toute la Chine. Bon, il se trouve que la victoire des communistes chinois amène le Kuomintang et son chef et sa petite équipe donc à s'exiler à Taïwan. Et donc, on rentre à partir de ce moment-là dans la situation qui a duré trop longtemps et qui n'a absolument aucun sens de dire que c'est les 20 millions, et ils ne sont même pas 20 millions à l'époque, c'est les 15 millions de Taïwanais qui représentent les 500 millions de Chinois de l'époque. Ce non-sens diplomatique est un non-sens voulu, puisqu'au fond, du point de vue des États-Unis qui ont imposé cette solution et qui ne veulent pas revenir dessus, la Grande-Bretagne suit, la France aussi suivra pendant un certain temps, mais on reviendra là-dessus si c'est nécessaire. Mais ce qui importe, c'est de bien comprendre que les États-Unis ont décidé que la reconnaissance d'un nouveau régime communiste devrait être la plus tardive possible, et si possible, et si on pouvait l'empêcher, le mieux serait que ce le soit. C'est-à-dire que, face aux États-Unis, qui sont en 1945 au sommet de leur puissance. Ils ont gagné la guerre sans y participer, ils y ont participé que brièvement, de 1941 à 1945, pas plus. Ils ont un appareil industriel qui est le plus puissant du monde de très très loin. Ils ont mis sur les fonds baptismaux l'ONU et tout ce qui va avec, avec l'accord des autres alliés. Et donc ils sont au sommet de leur puissance, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ceux qui ne l'aiment pas, et ce qui reste vrai encore aujourd'hui, c'est d'avoir une nouvelle puissance communiste qui s'installe à côté de la première dont ils auraient bien aimé se débarrasser. Donc on a affaire à un monde communiste qui a maintenant deux morceaux. Il y a maintenant deux morceaux. Et deux morceaux qui ont leur trajectoire différente. Je vous ai dit, les rapports entre les communistes soviétiques et les communistes chinois n'ont pas toujours été bons. Je ne rentre pas dans toutes les péripéties de la période, mais pour les États-Unis, c'est dramatique. Et ce qui se passe, et ça c'est le premier événement sur lequel il faut s'arrêter pour bien comprendre la logique des choses, ce qui se passe, c'est que l'URSS qui voit que l'ONU reconnaît Taïwan comme représentant la Chine dans sa totalité, boycotte l'ONU. On est en fin 49, début 50. Alors cette position qui a son sens et qui était une position favorable au régime communiste chinois va avoir une conséquence dramatique. Dramatique parce que, profitant de l'absence de l'URSS, les États-Unis se disent, occasion de guerre froide, je vais lancer une guerre contre la Corée, où il y a donc une partie de la Corée qui est occupée par un régime communiste et l'autre qui est occupée par un régime pro-américain. Je vais donc lancer une guerre contre la Corée, et comme l'URSS n'est pas au Conseil de sécurité, tout le monde va me suivre. Et effectivement, tout le monde, sauf l'URSS qui n'a pas participé à la discussion, puisqu'elle boycotte l'ONU, tout le monde y va. Enfin, tout le monde dit la France, la Grande-Bretagne, etc. Et ça donne la guerre de Corée, guerre épouvantable, des contingents d'Amérique latine, etc. Ça donne une guerre épouvantable qui va en fait s'arrêter à la situation qui était la même au début du conflit, en début 50, qui s'arrêtera en 53 par un pays coupé en deux. Et ce que je voulais dire, c'est que alors que l'URSS observe ce qui s'est passé, elle se mord les doigts de ne pas avoir été siégée au Conseil de sécurité, mais l'affaire est faite. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'il y a presque 200 000 volontaires chinois, donc des soldats, alors volontaires certainement, qui participent au combat et qui vont jouer un rôle décisif dans la défense du régime communiste nord-coréen. Là aussi, alors, l'URSS et la Chine sont dans le même camp politique et en même temps, les attitudes sont très très différentes par rapport à la guerre de Corée. Voilà donc encore, non pas un motif de divergence, mais une autre lecture. Alors pour la Chine, c'est bien sûr, l'URSS a une toute petite frontière avec la Corée, mais pour la Chine, c'est un gros voisin, puis c'est une culture beaucoup plus proche de la sienne, etc. Et donc la Chine mène sa trajectoire. Et la voilà donc en 49, même en 50 et même en 53, qui est lancée vers son processus de modernisation. Il s'agit de construire un pays nouveau, de l'organiser sur des bases socialiste, c'est-à-dire un gouvernement issu du peuple, contrôlé par le Parti communiste, et qui a un programme de développement qui est très, très précis, en ce sens que, dès le début, et ça reste encore vrai aujourd'hui, je ne peux pas ne pas assez insister là-dessus, dès le début, le Parti communiste chinois, et il a l'appui de la grande masse de la Chine, cherche la souveraineté chinoise dans tous les domaines possibles. Le premier pas de la souveraineté chinoise, c'est la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire, et ça c'est un des thèmes que Mao va développer, il faut que nous ne soyons pas dépendants d'un fournisseur de blé ou de riz. Il faut que nous soyons en capacité de nourrir tout le peuple chinois. C'est ce que nous avons fait pendant des millénaires. Il faut continuer même si nous sommes plus nombreux. Alors, je m'arrête sur le plus nombreux parce qu'il faut quand même savoir et retenir et que les auditeurs se mettent bien ça dans l'oreille. Quand les communistes chinois prennent le pouvoir à Pékin en 1949, il y a 500 millions de Chinois. Comparé aux chiffres d'aujourd'hui, j'ai les chiffres sous les yeux, la dernière date qui a été publiée sur la base des statistiques de l'ONU, il y a 1,448 milliard de Chinois. C'est-à-dire, faites le compte, hein, on est presque à 1 milliard de plus. On est presque à 1,5 milliard. Bon. Donc, assurer la souveraineté alimentaire, c'était s'assurer que les 500 millions qui étaient là en 1949 ont toujours eu à manger. Et c'était s'assurer que chaque fois qu'ils s'en ajoutaient 20 ou 30 millions de plus, il y avait toujours à manger pour eux. Et ça, la Chine a réussi ce pari. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais tendu la main. C'était le début de la reprise de la souveraineté. Alors le territoire s'y prête, etc. Mais toujours et encore que les surfaces agraires ne soient pas très importantes, mais l'effort a été fait et il a marché. Ça, c'est la première conquête de la souveraineté nationale. Et puis ensuite, il faut développer donc le régime avec des options socialistes. Alors ça sera fait avec des soubresauts. Je ne vais pas rentrer là aussi dans les détails des différentes opérations, le grand bond en avant, les fleurs qui s'épanouissent, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et il faut retenir, parce que c'est une leçon qui vaut encore aujourd'hui, c'est que le Parti communiste, à partir du moment où il est au pouvoir, va pouvoir changer d'orientation, réviser ses objectifs, rectifier sa feuille de route, ses objectifs, mais sans jamais lâcher le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a toujours une discussion et des débats à l'intérieur qui font qu'à un moment où l'organe dirigeant constate une erreur d'orientation ou un programme qui n'a pas marché ou qui a été mal suivi, il va revenir sur ses positions et avoir une autre politique, toujours en restant entre communistes chinois. C'est ce qui va expliquer ce qui va alimenter d'ailleurs des débats tout à fait importants dans les gauches socialistes, communistes et tout, en dehors de la Chine elle-même, pour savoir comment était la Chine, est-ce qu'elle était vraiment socialiste, est-ce qu'elle n'était pas, etc. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la volonté et la capacité du Parti communiste chinois à rester au pouvoir est passée nécessairement, parce qu'il a tenu compte de ce qui se passait autour de lui, il a toujours eu une vision globale de l'évolution mondiale, il savait dès le début qu'il était à la tête d'un pays sous-développé, arriéré, il voulait en sortir, et il fallait trouver son chemin dans l'espace géopolitique mondial, tout en restant aux commandes, d'où des rectifications. Alors je passe, rappelons donc tout l'épisode Mao, qui assure donc sécurité alimentaire, sécurité militaire, puisque Mao, alors que la Chine, l'URSS n'y tient pas, la Chine réussit à faire pratiquement seule son arme atomique et rentre dans le club des puissances atomiques. Donc là aussi, il y a eu des tensions tellement importantes que dans la période des années 60, on a même craint une guerre entre l'URSS et la Chine populaire. Les Chinois l'ont craint, ils ont déménagé des industries des zones frontalières du Nord pour les emmener au Sud pour éviter une invasion soviétique. Les Chinois ont, alors, on est quand même entre frères communistes, j'allais dire, il y a ça qui existe, il y a des liens, mais les Chinois ont un regard précis, documenté et quelquefois critique sur la politique de l'URSS et sur l'évolution de cette politique. Et on sait, parce que ça a déjà été écrit, c'est connu, que dès l'arrivée au pouvoir de Khrouchtchev, la direction du Parti communiste chinois se met à avoir des doutes sur l'orientation nouvelle du régime. Il voit arriver ce qui sera de plus en plus clair sous Brejnev à partir de 1964. Et puis, il voit arriver Gorbatchev. Alors, ce n'est pas encore Gorbatchev. Il voit arriver une évolution qui met au pouvoir non plus des vrais militants communistes, mais des espèces de technocrates de cette appareil d'État soviétique, qui est par ailleurs puissant industriellement, mais qui n'ont plus qui n'ont plus la fibre socialiste. La preuve sera quand l'URSS s'effondrera, qu'il n'y a plus beaucoup de socialistes sur ce territoire. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, la Chine se dit, alors c'est à la mort de Mao que le problème se pose. Mao est mort la même année que Chou Enlai, c'est-à-dire donc les deux, à mon avis, les deux plus grands dirigeants On parle plus de Mao que de Schoenlein, mais je pense que le Schoenlein a un rôle absolument primordial dans toute la montée et la conquête du pouvoir par le Parti communiste chinois. À partir de la mort de Mao, donc on est en 1976, il y a une courte transition qui est un peu la conséquence de la révolution culturelle, qui dure 2 ans. Et en 1978, arrive au pouvoir le fameux, que vous connaissez tous, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, c'est le champion de l'ouverture. Alors, pourquoi c'est quoi l'ouverture? Alors, on a beaucoup interprété en disant il s'est vendu aux capitalistes. Alors, ce n'est pas tout à fait l'analyse qu'il a fait, et d'ailleurs, on voit bien le résultat maintenant. L'analyse qu'il fait, c'est de dire nous avons notre souveraineté alimentaire, hein, nous avons notre souveraineté militaire, hein, c'est clair. On n'est pas dans des alliances, on n'est pas dans une alliance, on ne fait pas partie du bloc de l'Est gouverné par l'Union soviétique, on a notre autonomie politique, on est rentré au Conseil de sécurité, ça s'est fait entre-temps. Mais donc maintenant, ce que je constate et ce que nous constatons, nous, Parti communiste chinois, c'est que nous sommes en retard technologiquement, scientifiquement, au niveau de la formation sur les puissances capitalistes concurrentes et par rapport surtout à la puissance qui est dominante à l'époque et qui le reste encore temporairement aujourd'hui, les États-Unis. Et donc c'est avec ce regard sur la scène mondiale, il s'agit bien d'un espèce d'échiquier gigantesque, où la Chine, toute grande qu'elle est, avec son milliard d'habitants de l'époque, avec son parti communiste chinois qui est solidement installé et bien structuré, dit « je ne peux pas continuer comme ça parce que c'est le fait que je m'affronte à un pays qui est beaucoup plus fort que moi militairement, beaucoup plus fort que moi technologiquement, très en avance sur moi dans toute une série de domaines industriels et tout, c'est un peu la lutte du pot de terre contre le pot de fer. C'est pas possible, je vais y rester. » Du monde survit. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les États-Unis vont essayer tout ce qu'il était possible de faire pour éviter que la Chine ne se développe. Alors que faire par rapport à ça? Alors, c'est le choix du Parti communiste chinois, c'est pas que le choix de Deng Xiaoping tout seul, c'est le choix du Parti communiste chinois, dire bon, il faut prendre le risque, il faut entrer en compétition et il faut ouvrir nos frontières, alors qu'on était jusqu'à présent dans une industrie nationale qui avait assuré le départ de la Chine populaire, enfin le démarrage industriel de la Chine populaire. Il faut ouvrir nos frontières au capitalisme étranger, particulièrement anglo-saxon et américain, pour importer chez nous les techniques et le savoir-faire de ces gens-là. C'est une opération à risque et qu'il faut un régime très solidement structuré pour y arriver. Mais c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Et donc on a l'arrivée sur le sol chinois, on est à partir de 1978, on a l'arrivée d'investisseurs des États-Unis qui viennent profiter d'une main-d'œuvre pas chère, relativement bien formée au niveau élémentaire, mais qui va de ce fait apprendre de la main des Américains qui détiennent le capital comment fonctionne l'industrie la plus avancée dans le monde. Ça va se faire sous la forme, bien entendu, respect de la souveraineté politique chinoise, c'est-à-dire qu'un investisseur américain qui s'installe sur le sol chinois, dans des zones spécialement réservées à cet effet, doit passer entre les mains d'une société de droit chinois, avec la Chine qui détient 51% du capital. Donc c'est un jeu où la Chine communiste, le Parti communiste chinois, dit « Ok, je vais vous fournir de la main-d'œuvre pas chère, vous allez l'exploiter parce que je vous connais, mais moi, ce que je joue, c'est bien plus loin que ça. Je joue la capacité que je veux avoir un jour d'être souverain technologiquement et scientifiquement. » Alors ça n'a pas toujours été compris comme ça, mais en fait, c'était bien ça le calcul, c'est de dire nous avons du retard dans toute une série de domaines. Comment le rattraper, ce retard, si ce n'est essayer de faire venir sur place les gens qui sont très en avance sur nous, en essayant de les contrôler autant que possible. C'était ça l'idée des sociétés mixtes 51-49, et c'était ça l'idée des zones économiques spéciales sur lesquelles je m'arrête. Qu'est-ce que c'était que les zones économiques spéciales? Bon, c'était très simplement des zones spécialement réservées à l'installation de ces nouvelles industries capitalistes étrangères, états-uniennes en particulier, à proximité des côtes ou dans des ports même, pour que ces usines qui étaient là puissent à la fois fournir un marché chinois, mais qui était à l'époque pas un gros marché parce que les niveaux de salaire et de revenus étaient bas, et surtout puissent réexporter des produits à très bas coût, puisque fabriqués avec des salaires d'ouvriers chinois. C'est effectivement ça qui va se passer. Ça qui va se passer, c'est-à-dire que ces industries vont devenir très prospères, mais que, effet indirect, et c'était là tout le calcul de la stratégie du Parti communiste chinois, l'effet indirect, c'est qu'ils se forment dans ces usines-là, parce que vous imaginez qu'un Motorola ou un IBM qui envoie, donc, qui crée une filiale dans une zone économique spéciale chinoise, ne va pas envoyer des milliers d'ouvriers et d'ingénieurs. Et donc, il va se créer une classe ouvrière, une classe technicienne, des contremaîtres, des gens comme ça, qui vont apprendre le métier. Et il faut savoir que c'est suivi de très, très près par la direction politique chinoise, puisque, au fond, dans ces zones économiques spéciales, ils vont sélectionner eux-mêmes la partie de la classe ouvrière chinoise la plus apte, la plus dégourdie, la mieux formée, pour que ce soit elle qui fasse une espèce d'effet d'éponge, qu'elle absorbe tous les savoirs capitalistes pour savoir comment tout ça fonctionne. Et en gros, tout ça passe à partir de 1980, et ça marche. Et ça marche, puisqu'en fait, il se forme une classe ouvrière chinoise, petite en nombre, mais à très haut niveau de qualification, qui va souffrir, et c'est tout à fait clair, et ça a été reproché au Parti communiste chinois, qui va souffrir des conditions d'exploitation capitalistes, parce que vous imaginez que l'investisseur américain ou britannique, il ne va pas changer ses méthodes parce qu'il est en Chine. Il sait qu'il est là, on lui a donné l'autorisation de faire de l'argent sur le dos des prolétaires chinois, il le fait. Il sait que le gouvernement est d'accord. Mais au bout, il y a quand même la création d'une fraction de la classe ouvrière chinoise qui a fait d'énormes progrès. Et puis, on observe, on écoute, à la limite, on semble pouvoir s'inspirer de tel ou tel procédé de fabrication. Enfin, il y a un apprentissage de la discipline industrielle capitaliste par les communistes chinois qui est très, très important et qui va leur permettre de se lancer sur cette voie que j'indiquais tout à l'heure, de la recherche de la souveraineté technologique. C'est là qu'on approche une autre période. La politique donc d'ouverture de Deng Xiaoping se développe très très rapidement dans la décennie 80. Pendant cette décennie-là, la Chine et les communistes chinois observent ce qui se passe en URSS. Et ils sentent bien que les craintes qu'ils avaient sur une évolution très négative du régime soviétique, enfin très capitulatrice du régime, se confirment. Ils voient arriver Gorbatchev, ils voient arriver ses réformes, et ils sentent bien, parce qu'ils étaient déjà méfiants, ils sentent bien que le régime socialiste soviétique est condamné. Et donc, ils s'y préparent, mais les choses vont très très vite, parce qu'entre le début donc, de l'ouverture de Deng Xiaoping 78 et la chute de l'Union soviétique, il se passe à peine 10 ans, de 80 à 89. Ça amène à jeter un petit coup de projecteur sur un événement qui sera un événement décisif, puisque on se passe au printemps 1989, et vous avez tous entendu parler de manifestations sur la place Tiananmen. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé la chose suivante, c'est-à-dire qu'il s'est trouvé dans les dirigeants du Parti communiste chinois un certain nombre de dirigeants, qui étaient les communistes, qui étaient arrivés dans l'appareil, etc., qui étaient sensibles à un argument qu'on leur avait mis dans la tête, qui était de dire, de toute façon, le régime socialiste, c'est bien quand on est un pays arriéré qui veut se développer, mais dès qu'on est un pays développé, il faut arriver au multipartisme, à la démocratie parlementaire et tout, il faut surtout se débarrasser du Parti communiste. Et ce discours trouve des oreilles très favorables dans la tête d'un dirigeant qui s'appelle Zhao Ziyang, qui va dire, effectivement, oui, maintenant, ça y est, et il devient un petit peu une espèce de technocrate à la soviétique. Il dit, ben oui, maintenant, on peut passer à la démocratie, à l'occidentale. Et bien entendu, on est très content, à Washington en particulier, qu'il y ait des dirigeants chinois qui tiennent ce discours. La direction chinoise, la direction du Parti communiste, parce qu'il n'est jamais seul, il faut savoir que le Parti communiste chinois met à sa tête, il y a un comité central de 200 personnes, et puis il y a le véritable gouvernement de la Chine populaire, encore aujourd'hui, c'est le bureau politique permanent du comité central, c'est-à-dire 9 personnes. vous parle beaucoup du président Xi Jinping, etc. Il y a un collectif de 9 personnes qui dirigent le pays. Et donc, il y a nécessairement des débats. Ils ont tous une formation. Pour l'anecdote, je vous signale que sur les 9 membres actuels du bureau politique permanent du Parti communiste chinois, il y a 8 ingénieurs, donc des gens qui ont suivi une formation d'ingénieurs, qui ont ensuite fait tout un parcours dans le parti, à la fois avec des responsabilités techniques et puis des responsabilités géographiques. Donc ils arrivent autour de la 60aine à la direction du pays. Ils arrivent à peu près tous ensemble. Ils ont tous des parcours très, très vastes, avec une expérience très concrète du terrain, de discipline technique, un regard d'ingénieur militant, qui est un regard assez différent d'un homme de marketing ou de communication. Et donc, ces gens-là se rendent compte que M. Zhao Ziyang est en train de vaciller. Et ils vont d'ailleurs le débarquer avant 1989, avant les événements de Tiananmen, mais ils ont bien senti qu'effectivement, il y avait un danger. Et quand M. Gorbatchev lui-même arrive à Pékin, donc on est au printemps 1989, pour dire, après tout, mais faites comme nous, à ce moment-là, la direction du Parti communiste chinois, Deng Xiaoping en tête, c'est-à-dire que c'est lui-même qui a voulu l'ouverture et qui l'a mise en œuvre, dit « ça, on n'en veut pas ». C'est-à-dire il faut que le Parti communiste reste à la tête, il ne faut pas que le pays se divise. Si on fait le pluripartisme, on va faire éclater le pays, il y aura des divisions partout et tout. Et ça veut dire que les capitalistes seront au pouvoir. Car il dit, et son analyse c'est de dire, nous avons laissé des capitalistes avec leurs intérêts, des capitalistes étrangers, travailler et à la limite faire suer nos travailleurs chinois. Nous avons laissé même des capitalistes chinois se développer pour faire le même travail, puisqu'ils ont appris, ils ont regardé comment faisaient les capitalistes occidentaux. Mais ces gens-là ne sont pas au pouvoir. Ce n'est pas eux qui dirigent le pays. Nous leur laissons faire un certain type de travail. Nous leur laissons développer leurs activités. Nous laissons, et c'est vrai aujourd'hui, ça se dit, il y a aujourd'hui des milliardaires en Chine, mais ces milliardaires ne gouvernent pas. Il n'y a pas de parti des milliardaires. Il n'y a pas de milliardaires qui tiennent les journaux. Il n'y a pas de milliardaires qui tiennent les chaînes de télévision. La différence est essentielle et fondamentale. Et donc, ce que disent les anciens, Deng Xiaoping en tête, c'est qu'il ne faut surtout pas tomber dans ce panneau, parce que maintenant, alors ils se rendent compte, on est en 90, nous sommes seuls au monde, c'est-à-dire que l'URSS est tombée, il reste quelques régimes communistes, les Cubains, qui ont d'énormes difficultés, on sait toute la période qu'ils ont traversée, il reste le Vietnam qui est à peine relevé de sa guerre, il reste presque personne. Les pays de l'Europe de l'Est ont tous basculé petit à petit, ou dans l'OTAN, mais dans un capitalisme réformé. Tout ça fait que le Parti communiste chinois se retrouve à la tête du seul grand pays communiste au monde. Responsabilité historique considérable. Qu'est-ce qu'il va en faire de cette position unique? Il va se dire, maintenant je suis seul face à l'adversaire. L'adversaire n'a jamais changé. C'est là-dessus que j'insiste. Ce n'est pas parce qu'il y a des milliardaires en Chine et qu'il y a des patrons américains qui exploitent les travailleurs chinois. Ce n'est pas pour autant que le Parti communiste chinois a abandonné son objectif de souveraineté en tout point de vue. Mais là, il a à la limite le couteau sous la gorge. C'est le moment, alors il faut rappeler que c'est le moment où les États-Unis, considérant qu'ils ont gagné la guerre froide, que le socialisme a été éliminé, disent « nous sommes les maîtres du monde ». Et c'est ce qui va leur permettre de détruire la Yougoslavie, d'attaquer l'Irak. Enfin, c'est cette période-là, c'est ces années 90 qui sont des années très importantes, en particulier dans le regard que porte le Parti communiste chinois sur l'état de l'URSS. C'est-à-dire ce qu'ils vont voir, parce qu'ils connaissent bien, ils ont leurs entrées, ils savent, ils connaissent le régime voisin, etc. Depuis les années 1920, ils observent l'évolution de cette direction politique de ce communisme à la soviétique, et ils savent observer que les années 90 à 2000 sont des années absolument désastreuses pour ce qui va sortir des décombres de l'Union soviétique. Alors, je le rappelle à peine, mais donc l'espérance de vie diminue de 7 ans pour les hommes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de soins, il y a l'alcool qui fait les ravages, la drogue qui fait les ravages, les bandes armées qui font la loi partout. L'effondrement de l'Union soviétique est un espèce d'aiguillon pour la direction chinoise. Il ne faut surtout pas qu'il nous arrive ça. C'est-à-dire, ça serait ça, le retour au capitalisme de la Chine, ça produirait exactement le même genre d'effet. Nous n'en voulons pas. Après, mais qu'est-ce qu'on fait de « nous n'en voulons pas » ? Nous n'en voulons pas, mais on se retrouve face, on est le seul adversaire de poids face à cet empire américain qui croit que ça y est, il a gagné la monde. On a parlé de la fin d'histoire, Fukuyama, vous connaissez tout ça. Alors comment faire pour dire ben, on ne veut pas y passer, nous ? Ben, il faut continuer donc la recherche de la souveraineté technologique, scientifique, intellectuelle, par tous les moyens possibles. Et il faut regarder comment est la planète à cette époque-là. Comment est la planète à cette époque-là ? Il y a donc pratiquement plus de régimes communistes, voire des régimes en grosse difficulté, comme le régime cubain. Et donc, la règle du jeu, c'est l'ouverture du marché mondial. Alors, c'est une règle du jeu qui est imposée par le capitalisme occidental, qui dit l'ouverture du marché mondial, ça veut dire que le monde entier m'appartient. Donc, le monde entier est mon consommateur, le monde entier est mon esclave ou salarié, etc. Tout, bon. Et donc, la Chine va faire le calcul, dire « je ne peux pas m'affronter en présentant un autre modèle, il faut que je joue le jeu pour montrer qu'à ce jeu-là, y compris, je vais pouvoir tirer mon épingle du jeu et montrer qu'un pays socialiste dirigé par un parti communiste peut tenir le choc face à ce marché mondial et face à cette puissance qui est toute puissante, qui se croit toute puissante, qui est dévastatrice, pensant à l'Irak, pensant à la Yougoslavie, etc. On aura d'autres exemples. Et donc, il faut que je tienne. Et pour tenir, il faut simplement rentrer dans l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire dire ben, l'important, c'est les échanges. Et tout ce qui permet d'échanger, de créer des relations économiques entre les pays, est autant qui évite le repli des pays les uns sur les autres. Et c'est donc accepter la concurrence entre puissances économiques en essayant de ne pas se faire dévorer dans ce jeu très dangereux. Il faut savoir que quand la Chine rentre à l'OMC, les États-Unis sont très contents de l'avoir rentré à l'OMC parce qu'ils disent voilà des gens qui acceptent les règles du jeu libérales, puisqu'il s'agit de la liberté des échanges, de rien d'autre. Et ce qu'ils pensent en arrière de leur tête, c'est tout simple, c'est dire puisque nous sommes les plus forts, les frontières de la Chine s'ouvrent, nous allons envahir le marché chinois. Et alors on se frotte les mains, bien entendu. À l'époque, 1 milliard de consommateurs de plus, c'est le rêve. Hein. C'est le rêve. C'est tout, au plus qu'on ne pouvait espérer. C'est pas, alors, le calcul, la prise de risque des communistes chinois est forte. C'est-à-dire qu'ils étaient, les États-Unis étaient persuadés qu'ils n'allaient faire qu'une bouchée du marché chinois et que les entreprises chinoises qui s'étaient créées à cette époque, il y avait donc des capitalistes chinois, ne tiendraient pas le choc et le régime encore moins. C'est pas ce qui va se passer. C'est pas ce qui va se passer. Et effectivement, la Chine tient le choc. La Chine tient le choc. Et elle le tient parce qu'effectivement, elle a d'abord beaucoup progressé dans ses niveaux de formation. Elle a beaucoup progressé dans sa compréhension du système capitaliste. Et elle va tenir le choc, c'est-à-dire qu'elle va réussir à continuer à fabriquer dans les zones économiques spéciales pour les capitalistes étrangers beaucoup de choses, mais elle va se mettre à fabriquer beaucoup de choses par elle-même et donc être en capacité non pas d'être envahie par les produits made in USA ou fabriqués dans des usines propriétés des USA, mais à mettre sur le marché mondial des produits chinois. Donc c'est là qu'on a la création, à partir de l'entrée dans l'OMC, de l'usine Chine. Encore sous les yeux. Cette usine Chine, donc, qui n'est pas une filiale de l'usine états-unienne et qui même va progressivement devenir le fournisseur principal des États-Unis. Alors vous savez qu'aujourd'hui encore, le déficit, tout ce qu'en a dit Trump n'a pas fait d'effet, le déficit commercial des États-Unis par rapport à la Chine est énorme. C'est-à-dire que les États-Unis achètent beaucoup plus à la Chine qu'ils ne vendent à la Chine. Donc ça, c'est lié à la capacité industrielle de la Chine qui se développe à ce moment-là. Mais dans ce début des années 2000, La Chine est encore, n'a pas encore atteint sa pleine souveraineté technologique et industrielle, donc elle en est encore à fabriquer des produits, on dirait pour faire simple, de bas de gamme. Elle sait, et elle va s'y employer, elle sait qu'il faut qu'elle passe à un niveau supérieur. Et donc ça va se jouer sur des efforts de formation qui produisent des effets progressif, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, il sort beaucoup plus d'ingénieurs et de docteurs dans toutes les disciplines scientifiques en Chine qu'aux États-Unis. Au niveau de 700 à 800 000 par an, il y a 8 millions de diplômés de l'université, de l'enseignement supérieur, qui sont sur le marché chinois tous les ans, c'est-à-dire beaucoup plus qu'aux États-Unis, en gros le double. Alors, bien sûr, la population des États-Unis est plus petite, mais de ce point de vue-là, la Chine n'a plus rien à envier à la capacité scientifique et technologique des États-Unis. Elle est en capacité dans presque tous les secteurs de production, que ce soit dans l'astronautique, dans l'aéronautique, dans l'industrie automobile, etc., d'être au meilleur niveau technologique mondial. Ce n'est pas le cas en 2000, mais effectivement, la montée va se faire très très rapidement. Et en même temps, la Chine va observer toujours le jeu, puisque là, elle est complètement prise dans le jeu mondial. Et elle va mettre en place les outils qui lui permettront de mettre à l'œuvre la politique des routes de la soie. Voilà, après cet exposé introductif un peu long, mais qui voulait expliquer l'histoire, comment on en est arrivé, où on va en arriver dans la deuxième partie de l'émission, on va passer une première musique, alors qui est un coup de chapeau à Mao Tse-Tung, mais il méritait bien ça. Et puis voilà, ça donne un petit peu de musique chinoise dans vos oreilles. Dans cette nouvelle période, on est donc dans les années 2000, et la Chine met en place toute une série d'outils pour préparer ce qui va être la route de la soie. Ce premier outil, elle le met en place avec la Russie. Alors c'est très intéressant de réfléchir à cette situation, c'est-à-dire que autant les relations, même s'il n'y a pas eu d'hostilité, on est passé tout près de la guerre en 60, mais enfin ça n'a pas eu lieu, mais les rapports entre la Chine et l'URSS n'ont jamais été excellents,
la Chine se situait comme un pays du tiers-monde par rapport à un pays. Alors, il y a même eu des phases extrêmement critiques politiquement. La Chine qualifiait l'URSS de social-impérialisme, etc. Bon. Mais la situation, paradoxalement, a changé, c'est-à-dire, et ça se confirme encore très très récemment, ça s'est confirmé très récemment par le texte commun signé par Poutine et par le président chinois la semaine dernière à Pékin, la Chine va trouver un terrain d'entente avec la Russie à partir des années 2000. Alors 2000 en Russie, c'est aussi l'arrivée au pouvoir d'Eltsine qui va... petit à petit, avec difficulté, mais avec une opiniâtreté qu'on ne peut pas lui contester, essayer de redonner une stabilité et une capacité d'intervenir dans les affaires mondiales que la Russie d'Eltsine avait totalement perdu au profit des intérêts des Américains, au profit de la politique américaine. Donc c'est profitant de cette nouvelle attitude de la Russie, donc qui est incarnée par Poutine, que la Chine... tend les bras, tend la main à la Russie sur la base d'une vision géopolitique globale en disant que si nous sommes d'accord, Russie, avec ce qui reste de grandeur industrielle et puis cet immense territoire et ses immenses capacités minières, industrielles, il en reste, etc., si nous sommes d'accord pour développer des relations dans ce continent-là du monde, les États-Unis ne pourront pas nous détruire. Parce que c'est bien ça le danger, c'est-à-dire que le danger était clair, les États-Unis des années 90 étaient prêts à tuer tout le monde pour assurer leur pouvoir. Bon, ils n'ont pas réussi, et tant mieux. Et donc il se crée, on est en début 2001, l'Organisation de coopération de Shanghai. Et là on est dans les prodromes des routes de la soie. L'Organisation de coopération de Shanghai, c'est évidemment un accord des deux grands, la Chine et la Russie de l'autre, mais qui va réintégrer dans le jeu continental de ce continent eurasiatique la totalité des républiques d'Asie centrale qui se sont retrouvées un peu livrées à elles-mêmes au moment de la chute de l'URSS, qu'elles n'avaient pas souhaité d'ailleurs, qu'elles n'ont pas organisé. Ça s'est passé, ça a été une affaire vraiment bureaucratique organisée à Moscou, dans laquelle les populations, qu'elles soient ouzbèques, kirghizes ou kazakhs, n'ont pas eu beaucoup de part, ou même pas de part du tout. Un beau jour, ces pays se sont retrouvés indépendants, parce que l'URSS avait fait faillite. Bon. Et ils étaient donc un peu en déshérence dans ces années 90. Bien entendu, les États-Unis faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour mettre un peu la main, le grappin dessus, mais donc la première réaction de la commune de la Chine et de la Russie fédérale actuelle, c'est de recréer des liens entre tous ces pays, donc entre l'ensemble des pays qui, entre la Russie et la Chine, constituent cette Asie centrale, donc je les ai cités, je les recite, donc le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan. La Mongolie étant déjà très proche de la Russie, donc il n'y a pas de difficulté d'intégration. Bon. Voilà ça qui est l'opération de coopération de Shanghai. Il s'agit que d'une organisation de coopération de Shanghai. C'est pas un traité d'amitié, c'est pas un traité militaire. C'est une façon de faire connaissance, de travailler ensemble et de dire qu'on coopère parce qu'on est voisins, on a des frontières communes, on a des intérêts communs. L'un achète ceci à l'autre achète ceci à l'un, etc. Et c'est tout ça qui va s'organiser à partir de 2001 pour arriver jusqu'à nos jours. Alors ça va très très vite aussi, il faut relativement au rythme de l'histoire générale, ça va très très vite. Mais il se crée là des relations d'abord d'État à État, il y a des relations, des réunions de chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai, il y a des réunions de ministres, il y a des réunions des services secrets. On est très très soucieux par exemple des questions de sécurité par rapport au terrorisme islamiste qui se développe dans ces années-là. Bon. Et ce qu'il faut voir, et c'est très intéressant à mettre en relief, c'est-à-dire que la même année où se crée l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est l'année où George Bush, à la suite des attentats du 11 septembre, va lancer une attaque contre l'Afghanistan. Or, on sait que l'Afghanistan n'est pour rien dans l'organisation des attentats du 11 septembre. Mais ce prétexte donc pour attaquer l'Afghanistan, il paraît que Ben Laden est quelque part dans sa grotte et tout, mais quand les Afghans, les talibans de l'époque, proposent à Bush de leur rendre Ben Laden s'ils veulent, il n'en veut pas. Il veut s'installer en Afghanistan pour être au milieu de cette zone-là qui est en train de prendre corps contre lui, qui veut s'autonomiser géopolitiquement par rapport à la domination des États-Unis. C'est à ça qu'a servi l'opération afghane. les quantités de milliards de dollars qui ont été dispersés, pour rien d'ailleurs, hein, ont servi à ça, à avoir une espèce de pion au milieu d'un jeu qui était en train de se réorganiser autour des deux grandes puissances eurasiatiques. Bon, ce temps-là est en train de s'achever, c'est-à-dire que le jeu a marché. Mais on va revenir plus dans les détails. Dans le même temps, les Chinois lancent une autre opération avec la Russie, puisque là, on se parle alors qu'il y a d'un côté un régime qui reste communiste et de l'autre côté un régime qui est aux prises, alors qui a une volonté de se faire respecter en tant qu'État souverain, mais qui n'est pas du tout un État socialiste. La Russie de Poutine n'est pas un État socialiste. Il y a les intérêts capitalistes qui sont encore très présents, les capitalistes occidentaux qui sont très présents encore sur le sol russe, et Poutine le sait mieux que personne. Et il est obligé d'en tenir compte, parce que pour l'instant, il peut pas aller ailleurs. Si jamais il en a un risque, je ne sais pas. Bon. Mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de créer, de rassembler des forces qui soient des forces qui résistent à la domination tout-terrain, définitive, hein, la fameuse fin de l'histoire de Fukuyama, des États-Unis sur l'ensemble du monde. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils vont créer les BRIC, ça s'appelle donc le rassemblement Brésil, Russie, Inde et Chine. C'est une façon d'intégrer dans le jeu le plus gros pays d'Amérique latine et le deuxième plus gros pays d'Asie, donc l'Inde, dans un ensemble qui est aussi un ensemble de coopération économique. Il n'y a pas du tout d'accord militaire, il n'y a pas du tout de traité. On se reconnaît, on se parle, on s'aide financièrement, on a des projets communs, industriels, techniques, etc. On fait connaissance. Et puis on va y faire rentrer l'Afrique du Sud pour avoir un pied en Afrique. Et donc on a une espèce de, pas de contrôle, mais enfin, une espèce d'encerclement de la puissance états-unienne par différents continents. Et c'est là une espèce d'actualisation d'une ligne tiers-mondiste, ce serait le tiers-monde, puisque l'URSS est rentrée, l'URSS en devenant la Fédération de Russie est devenue une espèce de tiers-monde, ce qu'elle a été au moins pendant toute la décennie 90, elle est en train d'en sortir, et donc on a une espèce de tiers-monde qui s'assemble sur des bases nouvelles contre la puissance qui se veut dominante et qui a toujours cette volonté de l'être. Voilà les outils. Les outils, donc, hein, BRICS d'un côté, Organisation de coopération de Shanghai de l'autre. Voilà la façon de reconstituer progressivement, pas à pas, à la base, il y a les chefs d'État, mais il y a aussi des rencontres entre parlementaires, des rencontres entre entreprises, des rencontres culturelles. On refait connaissance, et en particulier, les anciennes républiques socialistes d'Asie centrale de l'URSS sont réintégrées un peu dans un espace qui était le leur, et où elles s'étaient retrouvées un peu orphelines au moment de la disparition brutale et inattendue de l'URSS, au moins de leur point de vue. À telle enseigne que, vous le savez certainement, les dirigeants communistes qui étaient à la tête de ces différents pays, Kazakhstan, Ouzbékistan et tout, sont restés au pouvoir. Alors, ils sont devenus un peu capitalistes, ils se sont souvent même appropriés le bien public sous la forme des prises de participation ou carrément d'appropriation, les armes à la main des biens collectifs, mais ils sont restés là parce qu'il n'y avait eu aucun mouvement de population, aucun soulèvement, rien du tout pour les faire tomber. D'autant plus que ces pays-là avaient pour beaucoup, beaucoup gagné à faire partie de l'Union soviétique, qui avait accéléré leur développement, qui les avait intégrés dans un processus global de développement. Et donc, ils se demandaient ce qui leur arrivait. Bon, donc, les voilà réintégrés. Les voilà réintégrés. Et donc, ça, c'est ce qui s'achève à la fin des années... qui s'achève vers 2010, un tout petit peu avant, puisque vous savez... Vous ne l'ignorez pas qu'en 2008, l'Occident capitaliste traverse une grave crise économique, bancaire, boursière. C'est la faillite de Lehman Brothers, etc. Bon. Ça amène à faire réfléchir. Alors maintenant, la Chine, elle est dans le marché mondial, et donc effectivement, une crise économique, boursière, financière importante aux États-Unis, ça a des incidences très directes sur le commerce extérieur de la Chine. Hein. C'est-à-dire, on vend moins aux États-Unis. Alors, on se débrouille, on ne perd pas tout, mais on est très sensible. Donc, ça veut dire, le fait d'avoir accepté de rentrer dans ce jeu capitaliste mondial fait que les secousses de ce régime capitaliste sont ressenties très directement par la Chine. Alors, ils sont ressentis, mais ça ne l'empêche pas, parce que, et j'ai pas oublié de le dire, mais c'est le moment de le dire, c'est-à-dire que pendant toute cette période-là, la Chine, qui a toujours ses objectifs,
qui travaille sur la base d'une planification quinquennale. Alors ça existe, ça c'est un reste soviétique, la planification quinquennale, c'est-à-dire un pouvoir centralisé entre les mains du Parti communiste chinois qui se fait des plans et qui s'y tient. Alors c'est pas tout à fait les plans à la mode soviétique de l'époque, parce que d'abord les techniques contemporaines, les modes de communication, l'informatique, etc., tout ça permet d'autres types de régulation, mais il y a bien une planification. C'est-à-dire que la Chine a toujours des projets et elle arrive donc à équilibrer entre commerce extérieur, capacité de consommation intérieure, relations avec les uns et les autres. Elle arrive à continuer sa trajectoire de croissance de sa production. En même temps, parallèlement, que croît sa population qui continue de croître à un rythme très très régulier et qui continue à être nourrie, logée petitement, c'est vrai, mais formé, ça c'est tout à fait vrai, je vous ai donné quelques chiffres indicatifs, et donc tout ça dans le cadre d'une planification qui touche absolument tous les domaines de l'existence. Alors je sais que ce genre de mot planification fait peur. Alors je rappelle quand même qu'il y avait une planification dite indicative sous le temps du général de Gaulle en France, mais sans ironiser là-dessus, la nécessité de voir un peu plus loin que le bout de son nez, surtout quand on est à la tête de 1,5 milliard d'habitants qui doivent manger tous les jours, travailler, se transporter, se loger, se distraire, etc., c'est une responsabilité considérable. Et donc, il faut s'organiser pour ça. Donc, la planification sert à ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que la Chine populaire, donc, voit, on est sous le temps du président Hu Jintao, elle voit arriver cette période où l'Occident traverse une crise économique. Et donc, il va falloir qu'elle en tire les conséquences. En tirer les conséquences, c'est tout simple. Ça va tarder un petit peu plus, mais ça sera l'objet ça sera dans le 12e et dans le 13e plan quinquennal. C'est de dire, bon, puisque maintenant l'Occident est affaibli, il s'est affaibli d'ailleurs en partie tout seul, à force des guerres continuelles qu'il mène, à force de politiques, je ne vais pas faire les critiques du capitalisme occidental, d'autres le font, mais ce n'est pas l'objet de l'émission. De toute façon, la Chine est placée de telle façon qu'elle voit tout. Elle sait très bien même, la Chine, je le rappelle, qu'elle le fait beaucoup moins ces dernières années, mais qu'à l'époque, elle a de l'argent, puisque son commerce extérieur, qui est fabriqué sur la base de quantité de produits de bas niveau technologique, mais est très, très en excédent. Donc elle a beaucoup d'argent dans les caisses, beaucoup de dollars, et elle prête de l'argent au trésor américain qui est en déficit chroniquement. Il est aujourd'hui d'ailleurs plus que jamais. Bon. Pour ça, la Chine donc connaît de près, très intimement, toutes les difficultés quasiment au jour le jour des grands capitalistes et du grand capitalisme occidental. Et donc là, elle se dit, là, ils sont en train de montrer des signes de faiblesse. Et donc, il y a une opportunité historique. Cette opportunité historique, et ça m'amène au sujet du jour, vous voyez qu'il faut le temps pour y arriver, mais ça méritait cette mise en perspective. Cette opportunité historique, elle est saisie par le nouveau président, qui s'appelle Xi Jinping, vous le connaissez, il l'est encore, qui va, on est en 2013, donc il y a le temps de la réflexion, disons, tirer les conséquences, la leçon d'abord de leur état de développement, l'état de leur industrie, le niveau technologique de leur industrie, le niveau moyen des produits qu'ils mettent sur le marché mondial. Ils ont organisé ce qu'on appelle les chaînes de valeur, enfin, ce qui est tout l'approvisionnement. Il faut savoir que quand la Chine se met à être, ce qu'elle est encore aujourd'hui, le premier producteur mondial d'acier, il faut qu'elle assure ses fournitures régulières en minerai de fer. En charbon, ça va, elle en a, mais en minerai de fer, il faut qu'elle assure toute une série de choses. Donc, il y a un travail de planification réelle pour arriver à être à tête de production comme ça. Pour rester le premier producteur mondial de riz, il faut s'en donner les moyens. Pour devenir un des premiers producteurs mondiaux, enfin, de toute une série d'objets qui sont plus fabriqués ou qui peuvent l'être encore par certaines filiales occidentales, mais qui sont aussi fabriqués dans des usines appartenant à des Chinois, il faut planifier, c'est-à-dire savoir ce qu'on fait, savoir ce qui manque, quel produit est nécessaire pour aboutir à la fabrication de tel produit fini, etc. C'est-à-dire avoir conscience de ce qu'on appelle aujourd'hui, le mot est maintenant connu, les chaînes de valeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les produits finis de l'industrie contemporaine sont des produits qui mettent en jeu toute une série de composants, toute une série d'intermédiaires, et si un seul intermédiaire fait défaut, s'il manque un tout petit morceau, s'il manque la puce dans votre téléphone portable, le téléphone portable ne marche pas. Et donc, ça, c'est très bien intégré dans la planification chinoise, c'est-à-dire la planification ne décide pas de s'embarquer dans telle ou telle production industrielle nouvelle. Elle regarde s'il y a des ressources sur place nécessaires, où est-ce qu'il faut acheter les ressources qu'on n'a pas, auprès de qui on va le faire, dans quelles conditions, quels sont les prix pratiqués sur le marché mondial. Tout. Il y a donc une observation du marché mondial extrêmement fine, parce que, et c'est là qu'on voit le sens de l'adhésion à l'OMC. Si vous n'êtes pas, si vous arrivez comme le paysan du Danube qui ne connaît rien à rien, vous allez vous faire rouler dans la farine, on va vous rendre n'importe quoi. Tandis que si vous êtes imbriqué dans tous les mécanismes du capitalisme contemporain à l'extérieur, vous êtes tout à fait en capacité de dire « ça je le veux, ça je le veux pas » ou « ça je l'achète pas à ce prix-là ». À telle enseigne, je vais vous donner un exemple qui est très récent. La Chine vient de décider d'acheter un médicament qui est fabriqué par un laboratoire pharmaceutique américain. Alors c'est pas un vaccin, on n'en est pas là, mais un médicament pour un traitement de certains types de cancers. Et la Chine a reconnu, parce qu'elle a maintenant ce qu'il faut de savants, de biologistes, d'épidémiologues, etc., pour ne pas se faire tromper sur la marchandise. Mais quand le fournisseur des États-Unis a annoncé le prix, la Chine a dit « je vous paye 60% de moins, c'est à prendre ou à laisser ». Eh bien, il a pris. Ça veut dire qu'effectivement, il savait, et les Chinois savaient, les Chinois, quand ils lui ont proposé donc de payer 40% du prix qu'ils demandaient, savaient qu'ils n'allaient pas le mettre à découvert. C'est-à-dire qu'ils avaient exactement la compréhension des marges bénéficiaires de ce monsieur laboratoire. Et donc, ils lui ont pris le gros de sa marge bénéficiaire, en disant « nous, on ne paye pas, on ne veut pas se faire rouler par un monsieur comme vous qui vend trop cher un produit ». On est d'accord, accepté, il est de qualité, il n'y a pas de problème, mais on ne veut pas que vous fassiez une rente sur le dos de la sécurité sociale chinoise. C'est ça les rapports de la Chine avec les puissances capitalistes. C'est des rapports très durs de capitaliste à capitaliste, on va le dire, parce que de toute façon, l'argent chinois, c'est l'argent du peuple, c'est l'argent de tout le monde, et donc on ne le gaspille pas et on ne se laisse surtout pas voler par un monsieur qui est un exploiteur pareil. Ça, c'est une donnée. Alors, on est donc prise de conscience des difficultés de l'Occident, Lehman Brothers, la crise de 2008, etc., effectivement, qui se contrôlent. Regardez les chiffres des PIB occidentaux 2009, 2010, etc. Il y a effectivement une contraction de l'activité économique, voire une baisse de l'activité économique. Mais enfin, de toute façon, dans la même période où les Chinois, la Chine a une économie qui croît de 10% par an, le PIB, les puissances occidentales se promènent entre 1 et 2%. Donc la crise, elle est visible, elle est dans les chiffres. Elle se sent, il n'y a pas de souci. Et la Chine pense que le moment est venu. Le moment est venu d'aller plus loin dans sa volonté de souveraineté économique, sociale, politique, souveraineté technologique et sa souveraineté totale. Et c'est là que va démarrer l'idée de la route de la soie, sur laquelle je vais passer quelques minutes, même la fin de cette émission. L'idée, elle est lancée, on est à l'automne 2013, elle est lancée par le président Xi Jinping dans une réunion officielle qu'il tient dans devant le Parlement kazakh, dans la nouvelle capitale du Kazakhstan, Astana, dont vous avez peut-être vu quelques images dans les semaines écoulées. Qu'est-ce qu'il dit ? Et il dit, alors, et c'est là qu'il utilise l'expression, la nouvelle route de la soie. Alors, le mot a changé d'une période à l'autre, mais enfin, il y a les nouvelles routes de la soie, il y a la route et la ceinture, je vais vous expliquer ce que c'est. Ça a été simplifié après, en anglais, BRI, donc Belt and Road Initiative. Donc là aussi, la ceinture et la route. Mais toujours est-il que l'idée est lancée et il s'agit bien d'une intégration économique de tous ces pays qui étaient dans l'organisation de coopération de Shanghai, qui donc, pendant 10 ans, ont appris à faire connaissance, ont partagé des informations, se sont renseignés sur l'état des uns et des autres, ont créé un climat de confiance et de respect mutuel entre des très gros, les quelques millions de Tadjiks et la Chine. Il y a des écarts de taille considérables. Mais toute la règle du jeu, c'est de dire les États sont respectables, ils sont souverains chez eux, on respecte la souveraineté, on est contre les agressions, on est contre les invasions, on est contre le terrorisme. Et là-dessus, sur ces bases-là, tout est possible, on peut travailler ensemble. Et donc, il lance ça, on est en 2013, Et l'idée tombe sur un terrain déjà fertile, c'est-à-dire qu'il ne va pas lancer ça à un gouvernement qui n'a jamais reconnu, qui n'a jamais vu, à des gens qui ne connaît pas. La Chine connaît très bien, ça fait 10 ans qu'elle y travaille, même un peu plus, 13 ans qu'elle y travaille, tous ses voisins, avec lesquels elle a des relations économiques, des frontières communes, dans le cas du Kazakhstan, par exemple, ou d'autres. Et donc, le terrain est mûr, et le terrain est mûr dans la conjoncture économique mondiale, c'est-à-dire d'un état d'affaiblissement de l'Occident. Qu'est-ce que c'est que... Alors, j'en viens à mon sujet, il est tard, mais j'en viens à mon sujet. Qu'est-ce que c'est que la ceinture et la route ? Et il y a deux façons d'intégrer l'économie globale de cet immense continent qui est l'Eurasie. Je rappelle que l'Eurasie, l'Europe, je considère que c'est une espèce de fiction, un découpage un peu arbitraire d'une partie de l'Eurasie. L'Eurasie, c'est un énorme bloc continental qui va en gros de l'Atlantique jusqu'au détroit de Bering, donc le détroit de Bering qui sépare la Russie, la Fédération de Russie, de l'Alaska et donc du territoire du continent américain. C'est immense, c'est le plus gros des continents, c'est de très très loin le plus peuplé. Je vous rappelle, par exemple, pour très très loin le plus peuplé, parce que l'Amérique, y compris l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, c'est pas plus de 800 millions d'habitants. L'Afrique aujourd'hui, c'est 1,4 milliard d'habitants, c'est-à-dire c'est autant que la Chine toute seule. Mais si vous rassemblez la totalité des populations d'Asie, en mettant en premier les deux plus gros qui sont la Chine et l'Inde, vous arrivez tout de suite, il y a 5 des 7 milliards d'habitants de la planète qui sont sur cet espace eurasiatique. Et donc, et cet espace, il est continu. Alors bien sûr, il y a des obstacles ici et là, mais cet espace est continu, il n'y a pas d'obstacle. On a voulu inventer un obstacle dans les montagnes de l'Oural à 1500 mètres d'altitude, ce n'est pas sérieux, ça n'a pas tenu d'ailleurs. Donc il y a là un ensemble qui est en train de se constituer, c'est ça l'idée de la route de la soie. Alors la route de la soie, c'est donc une traversée continentale d'ouest en est et d'est en ouest de ce bloc eurasiatique de ce continent-là, par toute une série de voies de transport, et la ceinture, ce qu'on appelle Belt and Road, la ceinture, c'est la même chose, mais du point de vue maritime. Alors, c'est plus classique, puisqu'il s'agit d'organiser le commerce entre donc, l'Asie de l'Est, donc la Chine en particulier, et l'autre bout, donc l'Europe en particulier. Et donc là, on est dans des schémas plus connus, donc la mer Rouge, Suez, etc. Tout ça est connu. Mais il s'agit de développer ces deux types de transports. La grosse mutation, elle ne vient pas tellement de la ceinture. La ceinture, il faut la sécuriser. Elle a son importance dans les relations entre la Chine avec les pays africains, puisque c'est plutôt par là que ça passe. Mais la grosse novation de la route de la soie, c'est la traversée du continent eurasiatique d'un bout à l'autre. Alors ça a l'air de rien, traverser, mais pour traverser, il faut des moyens. Donc traverser, il faut des trains, il faut des routes, il faut des pipelines, il faut, alors ça ne suffit pas dans l'économie d'aujourd'hui, il faut des réseaux de distribution de données, il faut des règles douanières communes, il faut se connaître, il faut se faire confiance, il faut régler des petits problèmes, j'en cite un parce qu'il est connu mais il est cocasse, ben, quand vous voulez aller de Russie au Kazakhstan, de Russie au Kazakhstan ça va, mais quand vous voulez aller de Chine au Kazakhstan, puisque la plupart des trains de la route de la soie passent par le Kazakhstan avant d'arriver sur le territoire russe. Ben, il faut changer l'écartement des voies de chemin de fer, enfin plutôt des trains. Ça, c'est une donnée historique. Les trains européens et chinois ont des roues écartées de 1,435 m et les trains russes ont des roues écartées de 1,524 m. Bon, ça fait que 10 cm d'écart. Mais ce n'est pas possible de mettre un train directement sur les rails russes quand il vient de rails chinois. Et donc, il faut organiser. Alors, c'est tout bête de dire, j'ai un train qui traverse le continent eurasiatique, qui part de Chine. Ben, quand il va arriver à la frontière kazakh, il va être obligé, on va l'arrêter, et on va transporter tous les containers sur un autre train qui sera, lui, au bon écartement. Et cet autre train continuera son trajet et il ira jusqu'en Russie. De là, il ira en Biélorussie ou en Pologne. Et puis, de là, comme il sera re-rentré donc, en Pologne sur des voies à écartement classique européen, il fera à nouveau rebasculer la marchandise. Mais en fait, c'est vrai qu'avec le container qui est un emballage simple, c'est assez facile. On met les deux trains parallèles l'un à l'autre et puis il y a une espèce de grue-pont qui passe les containers d'un train à l'autre et ça se fait. Mais tout ça s'organise. Tout ça suppose des endroits où on le fait, des moyens de transport et tout ça se fait progressivement. Tout ça fait tellement progressivement. Alors, on est en 2013. Alors, ça, c'est le discours d'annonce. Et parallèlement, le premier ministre chinois, Li Keqiang, va aller en Indonésie et il va annoncer aussi le même programme côté mer, puisque l'Indonésie, elle est sur le trajet des navires qui commercent avec la Chine et donc et qui vont vers l'Afrique en général. Et donc, l'opération est lancée politiquement. Et puis, elle va être mise en œuvre dans le plan qui suit, donc le 13e plan, donc qui est 2015-2020, de façon systématique, en regardant tous les aspects. Tous les aspects, donc il s'agit de construire tout ce qu'il faut, évidemment, de ponts, de tunnels, etc., pour mettre des voies ferrées là où il n'y en avait pas, de créer des autoroutes dans des endroits absolument impossibles, on croyait que ce n'était pas possible qu'il n'y en aurait jamais. Il y a une autoroute qui va de Chine de l'Est, de Chine de l'Ouest, par exemple, au Pakistan, qui passe à 5000 mètres d'altitude. Ça ne se faisait pas, on ne savait pas faire, on n'avait jamais fait, on n'avait jamais eu le courage de faire. Les Chinois le font. Pourquoi les Chinois le font? Ce n'est pas parce qu'ils ont décidé de faire tout à la place de tout le monde, c'est parce qu'ils ont le nombre d'ingénieurs et les entreprises qui sont en capacité de le faire. Je reviens toujours à cette capacité intellectuelle, cette capacité scientifique. La souveraineté, elle se manifeste comme ça. C'est-à-dire qu'on dit, il y a un endroit où on n'a jamais fait, ou un tunnel de cette taille-là, à cet endroit-là, on n'a jamais osé, et bien ils osent et ils le font. Ils ont fait, par exemple, un pont entre Hong Kong et Macao, qui est un pont de 35 km. Bon, ils l'ont fait, ils savent faire, et ça ne s'écroule pas, parce qu'ils ont la capacité de le faire. Il fallait en arriver à ce moment-là de leur développement technologique pour que ce projet puisse prendre corps. Le projet a pris corps. Alors, il a pris corps parce qu'il s'est mis en place, donc, d'abord, ce n'est pas une route. Alors, on était resté sur l'idée Marco Polo. Encore que ce n'est pas Marco Polo qui a inventé le mot « route de la soie ». La route de la soie existait de fait, parce que les Occidentaux, les Européens, savaient que la Chine produisait de la soie, qu'elle arrivait jusqu'à chez eux, même si ce n'était pas des commerçants chinois qui faisaient le voyage, c'était plutôt des commerçants indiens ou arabes. Enfin, on savait très bien. Mais le mot « route de la soie » a été inventé par un géographe allemand, je crois, au XIXe siècle. Mais il a porté, mais c'était la réalité, il a simplement mis un nom dessus. Cette route de la soie, il n'y en a pas qu'une. Je vous ai donné un trajet classique, donc Chine, Chine de l'Ouest, Kazakhstan, Russie, et puis de là, on part vers l'Europe. Mais après, une fois que ce premier axe est tracé, on peut greffer des tas d'embranchements tout le long. Et donc, ce qu'est en train de faire la route de la soie, c'est un quadrillage, enfin plutôt un maillage de la totalité de cet espace eurasiatique à partir d'un axe, en gros, est-ouest, un axe Chine-Russie-Europe, où ça permet de monter et de descendre. C'est-à-dire qu'on peut redescendre, parce que le corridor, je vous ai parlé du corridor pakistanais, c'est-à-dire on part de Chine, mais là on descend directement sur le Pakistan, sur un port d'ailleurs qui a été construit par les Chinois à Gwadar. On fait la même chose en intégrant l'Iran, qui vient d'être intégré d'ailleurs lui-même dans l'Organisation de coopération de Shanghai et qui a d'excellentes relations avec la Russie, de la Russie contemporaine. Et donc, on descend aussi des voies ferrées depuis la route de Kazakhstan jusqu'à l'Iran. On dessert au passage, bien entendu, l'Ouzbékistan et le Turkménistan. On peut aller à partir de là, quelque part vers l'Europe, alors soit en prenant le sud de la Russie, soit en passant par la Turquie. Une fois qu'on est en Iran, après, alors, cette espèce de tronc, qui est le premier axe est-ouest, cette espèce de tronc est en train d'avoir plein de branches, et il s'en construit tout le temps. C'est-à-dire, si on suit l'actualité des routes de la soie, on s'aperçoit tous les 6 mois qu'il y a un élément nouveau, qu'il y a une nouvelle gare ici, que là, il y a un nouveau port qui a été créé, que la navigation sur la Caspienne, par exemple, entre les ports kazakhs et les ports iraniens, a tendance à s'intensifier. Sans arrêt, il y a des idées nouvelles et des débouchés nouveaux, des branches nouvelles qui poussent sur ce tronc qui est bien alimenté. Alors, pour vous donner une idée de ces trains, puisque c'est le symbole un peu de cette transversalité eurasiatique, il y a aujourd'hui qui font le trajet entre donc la Chine et l'Europe, l'ouest de l'Eurasie, l'extrême ouest de l'Eurasie, il y a aujourd'hui 15 000 trains par an. 15 000 trains par an, ça a l'air de pas grand-chose, c'est beaucoup. 15 000 trains par an, c'est des trains, il peut y avoir en gros 80 ou 100 containers. Donc, compter 100 containers, alors je fais un calcul grossier devant vous, mais 10 tonnes de marchandises dans un container. Donc, 100 fois 10 containers, ça fait 1 000 tonnes de marchandises. Donc, 15 000 trains, vous voyez tout ce qui peut aller. Ce qui est important, c'est de savoir que la Chine, dans son approche qu'elle a à travers l'OMC, dans son approche du marché mondial et dans son approche des relations internationales, quand ils disent « gagnant-gagnant », ce n'est pas simplement un slogan de marketing. C'est que la Chine est très soucieuse quand elle crée des relations ou qu'elle développe des relations commerciales avec un pays tiers, surtout s'il est plus petit et que ses ressources sont faibles, d'éviter de lui vendre tout et n'importe quoi et de l'inonder de produits chinois si ce monsieur n'a rien à vendre ou si on ne lui achète rien. Il faut savoir aujourd'hui qu'un des plus grands salons qui se tient en Chine populaire, c'est le salon de l'importation. Car la Chine est très soucieuse de ne pas envahir des pays avec ses marchandises chinoises sans que ces pays aient des capacités de vendre. Parce qu'ils se disent, c'est à la limite un raisonnement de bon commerçant, hein, si mes clients n'ont pas d'argent, qu'est-ce que je leur vendrai ? Rien du tout. Donc il faut que mes clients me vendent quelque chose. Et voyez, des choix qui sont faits, je cite souvent le cas de certains fruits tropicaux, où la Chine décide d'acheter des agrumes ou des bananes aux Philippines, qui en produisent beaucoup, ou des mangues, ou des ananas, alors qu'ils sont tout à fait capables d'en produire sur le territoire chinois. Mais si on n'achète pas ce que ce pays-là produit, qu'est-ce qu'il vous achètera ? Et donc, c'est cela, les relations gagnantes, c'est voir ce qu'on peut échanger. Alors après, il y a du commerce derrière ça, mais il y a une attitude, et dans toute l'approche du commerce extérieur par la République de Chine, il y a ça. Voir quel est le niveau d'équilibre, ou quel est le relatif niveau d'équilibre. Et vous savez que le commerce extérieur chinois est en excédent, mais très très peu. Très peu, parce qu'il y a des destinations sur lesquelles ils disent même on va acheter plus, par exemple, aux Australiens qu'on ne va leur vendre. Mais l'Australie nous fournit un minerai de fer, donc ça c'est stratégique, ça vaut la peine. Bon. Tout ça est une approche intéressante. Donc ce réseau se met en place, il grandit tous les jours. Et ça se fait sous la forme d'accords, c'est-à-dire que le BRI, donc la route de la soie, est un type d'accord qui est signé par un État, c'est-à-dire un État va décider qu'il adhère à ce système de BRI, c'est-à-dire qu'il va accueillir favorablement les initiatives, d'abord le réseau de transport, il va accueillir favorablement les initiatives, il va laisser construire par les industries chinoises en capacité de le faire, des gares, des tunnels, etc. Et il va s'intégrer dans ce marché intégré eurasiatique, de cette façon-là. C'est très important à comprendre. Et donc, quand un pays... Alors, ça s'est passé encore hier, je crois. C'est le président argentin, puisque ça va même jusqu'en Amérique latine. Le président argentin était à Pékin. Il était, je crois, venu pour l'ouverture des Jeux olympiques. Et il a signé l'accord de l'Argentine pour faire partie du réseau BRI. C'est-à-dire qu'il y aura des projets communs d'infrastructures, de développement de tel transport, de telle activité, etc., par des entreprises chinoises, avec un accord du gouvernement argentin. La dernière nouveauté importante du point de vue géopolitique dans ce domaine, c'est le fait que la Syrie vient d'être reconnue comme partenaire de la route de la soie, parce que ça veut dire très clairement qu'aujourd'hui, la Syrie, même si elle est encore aux prises avec une situation difficile et avec face à la volonté des États-Unis et de la Turquie de l'empêcher de vivre avec la guerre qu'on lui a menée, elle est suffisamment avancée dans la réussite de sa guerre, dans la fin de cette trop longue guerre, pour que la Chine dise désormais il est possible d'imaginer des projets pour que un des arbres de cette route de la soie arrive en Syrie, aille jusqu'à un port syrien, le port de Latakia en particulier, qui est bien placé pour ça. Et de ce fait, à ce moment-là, la route de la soie arrive jusque sur la rive de la Méditerranée, en venant d'Iran, bien entendu, et en passant par l'Irak. Bon. Donc, il y a pratiquement tous les pays d'Eurasie sont membres de façon bilatérale des BRI. Donc, chaque accord pour rentrer dans la route de la soie se fait entre le gouvernement du pays concerné et le gouvernement chinois. Et après, donc, on fait ensemble des programmes pour développer ces infrastructures. Et ça va très très loin, parce que, bien entendu, le spectaculaire, c'est ce qu'on voit, nous, c'est les tunnels, les routes, les ponts, etc. Il faut voir aussi donc toutes les adaptations de normes dans les transports, toutes les adaptations sur la pollution, par exemple. Ils sont très très attentifs quand ils signent des accords
mettre en place des systèmes qui ne soient pas polluants, le moins possible. Ils sont très sensibles à la décarbonation. Enfin, tout ça fait partie des besoins. Et derrière, il y a une banque qui s'appelle la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, qui a été mise au point pour soutenir ces projets. Donc il y a soit pour soutenir un projet dans un pays qui est petit, qui n'a pas beaucoup de ressources, mais dans lequel on veut faire passer des trains ou faire passer une nouvelle autoroute, ils seront soutenus soit par un prêt d'une banque chinoise, elles ont de l'argent, on le sait, et soit par un prêt de cette banque qui a été constituée pour les besoins de la cause. Voilà, voilà ce que c'est aujourd'hui que ces routes de la soie. Donc la route de la soie, c'est une intégration économique du continent qui met en jeu, donc qui rapproche les intérêts de l'extrême ouest de l'Eurasie et les intérêts de l'extrême est. D'ailleurs, j'ai parlé de la Chine, l'atelier du monde, comme on dit. Pour donner une idée des pays qui sont atteints par les trains, je vais parler de ces trains qui traversent l'Europe, ils ne s'arrêtent pas simplement en Allemagne ou en Pologne. Ils vont très très loin. Vous avez des trains réguliers quasiment tous les jours qui viennent de Chine et qui vont jusqu'à Lisbonne. Vous avez des trains qui vont jusqu'à dans les gares italiennes. Vous avez des trains qui vont jusqu'à Londres, qui repassent par le tunnel sous la Manche. Vous avez des trains qui vont en Scandinavie. Donc il y a, si vous voulez, cette espèce de tronc commun qui est la route de la soie est en train de s'élargir, de grandir et de grossir. Et puis, il a remis en circuit, j'insiste là-dessus, parce que vous allez dire, la Russie ne sert que de point de passage. Oui, mais en fait, quand vous avez des usines qui produisent en Chine, dans l'extrême est de la Chine, aux confins de la frontière chinoise, il n'est pas très malin d'aller les faire repartir dans toute la profondeur de la Chine pour prendre le nouveau train qui passe au Kazakhstan. À ce moment-là, on va remonter sur la voie du Transsibérien et une partie du trafic. Donc on n'aura en fait pas un seul arbre avec ses ramifications qui serait l'arbre Asie centrale. Donc en gros, Chine, Kazakhstan, Russie. On a aussi un arbre nord, il y a un deuxième tronc qui est un arbre Chine du Nord, Mongolie, Russie, pour aboutir toujours à l'ouest du continent. Mais l'Europe est touchée. L'Europe est touchée très régulièrement. Vous ne savez pas. Alors il y a même des centres de e-commerce, toute une série de points frontaliers de la Chine aujourd'hui où passent ces marchandises, où là sont rassemblés. Vous commandez un produit sur Internet qui est fabriqué par une entreprise chinoise. Les stocks sont à disposition à un endroit juste à côté d'une gare où ils vont être mis sur le prochain train qui part, que ce train parte vers Lisbonne ou vers Rotterdam, c'est pareil. Et vous allez dire, alors, et les bateaux ? Mais les bateaux, ils mettent beaucoup plus longtemps. Alors, ça marche encore, on sait que ça marche bien. Il y a des gros bateaux qui portent de la marchandise chinoise dans les ports européens, mais ils prennent beaucoup plus de temps parce que le trajet est plus long. Il faut, en gros, alors, les trains qui font la traversée aujourd'hui quotidiennement du continent à travers la route de la soie mettent entre 10 et 15 jours selon la durée du trajet. Un transport par mer mais pratiquement le double. Donc effectivement, il y a un avantage, puisque dans les règles du commerce, c'est qu'une marchandise se paye quand on la reçoit. À la rigueur, on verse un acompte. Mais quand vous avez la marchandise, vous allez devoir la payer. Si elle arrive dans 10 jours, vous la payez à partir du 10e jour. Si elle arrive dans un mois et demi, vous la payez qu'à partir d'un mois et demi. Pour l'entreprise productrice, c'est pas tout à fait la même chose. D'où le succès, alors qu'il est clair, il ne faut pas le cacher, que le transport par le train coûte un peu plus cher que le transport par bateau. Je ne parle pas du transport aérien qui, avec le Covid, s'est effondré, donc qui ne compte plus pour rien là-dessus. Et il faut savoir que le transport par le train sur la route de la soie est en plein essor. Ce n'est pas 1% ou 2% par an, c'est plus 20% ces deux dernières années. Et le Covid n'a rien empêché, parce qu'il faut savoir que autant la zone de Wuhan, qui est une grosse zone productrice, avec des trains là aussi qui partaient régulièrement vers l'ouest et qui revenaient de l'ouest, autant la zone de Wuhan a été arrêtée carrément dans des conditions que vous avez tous vues, avec des hôpitaux qui ont été construits dans la semaine pour soigner les malades du Covid, autant le reste de la Chine a continué à travailler. C'est-à-dire que ce commerce a continué à prendre un gros essor.
Parce que précisément, comme la politique anti-Covid, c'était de dire on est extrêmement sévère et on ne fait absolument aucune erreur là-dessus au moment où il y a une début des cas, une contamination. Mais par contre, partout où la vie peut devenir normale, elle redevient normale. Et donc la production chinoise a très peu baissé, à telle enseigne qu'on sait que le PIB chinois a augmenté de 8% en 2021, ce qui est évidemment un des records du monde, chacun le sait. Alors, j'y suis presque. Sidi me regarde. Alors, conclusion. Eh ben, là, on a un projet important qui implique tous les gros membres et les plus petits membres de cet immense continent qui est en train de s'organiser, qui pèse tout son poids et qui pèse un poids d'autant plus important que je dis l'Inde est petit à petit impliquée, le Pakistan est déjà totalement impliqué dans la route de la soie avec ce qu'on appelle le corridor pakistanais, de plus en plus de pays africains sont concernés, la Chine construit des voies ferrées en Afrique, les nouvelles voies ferrées sont des voies chinoises, la Chine intègre petit à petit l'Afrique dans ce marché global, et ce marché global, j'insiste, c'est un marché ouvert, c'est-à-dire que à aucun moment il est question de s'approprier les richesses d'un pays et de ne rien donner en échange. Il s'agit bien d'échanges, il s'agit bien d'intégrer la communauté urbaine avec des objectifs de développement collectif. Et ce dont ce projet, enfin c'est plus qu'un projet maintenant, c'est une réalisation, de 2013, on est en 2022, et les réalisations ont commencé à partir de 2015, enfin maintenant il est très clair, et chaque mois, chaque semaine amène des éléments nouveaux, de nouvelles constructions, de nouvelles gares, de nouveaux procédés. Il y a une intégration qui se fait donc par les transports, par les fibres optiques, par les pipelines, par les gazoducs, et la dernière innovation qui est en cours d'installation serait la mise en place d'un réseau de distribution d'électricité continentale. Alors je dis deux mots là-dessus et je terminerai ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on s'est aperçu, on le savait, que jusqu'à présent dans nos pays, l'électricité est transportée sous forme de courant alternatif. Vous connaissez 50 périodes, etc. Vous connaissez ça. On s'est aperçu, on le savait techniquement, mais qu'il était possible, on sait le faire maintenant, et les Chinois savent le faire, de transporter du courant continu et qu'on peut en faire passer de beaucoup plus grandes quantités et que les pertes en ligne, c'est-à-dire que vous savez qu'une ligne électrique, même un câble qui passe au dos, ça chauffe, donc ça perd de l'énergie, et que les pertes étaient beaucoup moindres. Aujourd'hui donc, on est face à une situation qui est la suivante, je m'arrêterai là-dessus pour terminer, vous compreniez bien, que la plus grande entreprise chinoise de distribution d'électricité, qui a évidemment, elle a 1 milliard de clients chez elle, donc effectivement, elle est à l'aise, elle connaît bien son marché. Cette plus grande entreprise, elle commence à prendre des parts dans un certain nombre de réseaux électriques européens, et en particulier, alors elle en a au Portugal, elle en a en Italie, elle en a en Grande-Bretagne, elle en a en Grèce. Bien sûr, vous allez dire la Grèce, comme la Grèce a été tordue, torturée, maltraitée par le FMI, la Banque Centrale Européenne et tout, que la Grèce manque d'argent, elle est appauvrie, la grosse entreprise chinoise électrique est venue, elle a pris des parts dans le réseau grec d'électricité. Alors ça, c'est un intérêt à la limite capitaliste. Mais ce qui se passe, c'est que si le projet donc, de réseau de transport de grosses quantités sur de grandes distances avec très peu de pertes en courant continu, qui est une technique que la Chine maîtrise déjà elle-même, va permettre la mise en place progressive d'un réseau continental de distribution d'électricité. Mais rendez-vous bien compte que si on annonce à un consommateur français qu'avec ce réseau-là, il arrivera du courant qui est produit à 3 centimes le kilowattheure en Chine, il arrivera à 6 centimes d'euros sur le territoire français, le consommateur français pourra y accorder peut-être un certain intérêt. Donc tout ça, c'est la dynamique de la route de la soie, c'est la dynamique d'une intégration du plus grand continent du monde et du continent le plus peuplé du monde pour que chacun trouve sa place, chaque pays trouve sa place, petit ou grand, avec cette Chine qui est là pour dire « mais on est là pour travailler ensemble, nous sommes en train de fabriquer le le pays de demain, enfin le monde de demain, nous sommes sur une seule planète. Nous avons intérêt à nous serrer les coudes. Nous n'avons pas intérêt à nous faire la guerre. Je ne ferai la guerre à personne. Je n'ai pas de base à l'étranger. Je veux simplement qu'on me respecte, c'est tout. Je veux simplement créer les conditions pour une humanité développée. La Chine a montré qu'elle était possible de se développer à partir d'une situation initiale catastrophique, de nourrir 1 milliard de personnes de plus en pas grand-chose, enfin en peu de temps, de sortir 200 millions de personnes de la pauvreté dans ces 10 dernières années. Donc il faut que nous nous serrions les coudes pour faire tous la même chose. C'est ça l'avenir. Et c'est l'avenir, ce n'est pas la guerre permanente des États-Unis, ce n'est pas le racisme, ce n'est pas la division, ce n'est pas « moi je suis le meilleur, laisse-moi là, donne-moi la place » ou « donne-moi tout », ce n'est pas le braquage permanent, c'est un autre type de relation mondiale, internationale. C'est ça qui est en cours et c'est ça que symbolise et que concrétise en même temps les nouvelles routes de la soie. Voilà, je vous remercie et on en reparlera évidemment, c'est un sujet très très vaste. Bonne soirée à tous et à bientôt.
Le temps des cerises et guerre signale et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux.